penser après la tempête? Le calme, un retour à la normale est-il à craindre? On en parle aujourd'hui avec notre invité, le philosophe slovène Slavoj Žižek, mi-ogre, mi-géant, spécialiste de Lacan, de Hegel, penseur de la gauche radicale, connu pour son pessimisme et sa pensée atypique. Pendant le confinement, il a écrit des chroniques pour la presse internationale, rassemblées et publiées chez un éditeur anglais, que l'on pourrait traduire le titre de cet ouvrage par « Pandémie, le virus qui secoue le monde ». Il va paraître en France début juillet sous le titre « Dans la tempête virale ». Il y pointe les virus idéologiques qui ont favorisé la mondialisation de l'épidémie, mais aussi ceux que la pandémie active ou réactive, des fausses informations à la censure. Bonjour Slavoj Žižek.
Bonjour, je suis très content de pouvoir participer à cette émission et mes excuses que mon français n'est pas assez courant pour continuer en français.
Bon, vous pourrez faire des échappées en français si vous le souhaitez. En attendant, on a avec nous Michel Slotowski, votre voix française, si vous le souhaitez, jusqu'à 13h30. Bonjour Michel.
Bonjour.
Slavoj Žižek, qu'a secoué pour vous le plus fortement ce virus? Parce que c'est le titre de votre ouvrage en anglais, que le virus checks the world. Hein. Qu'est-ce qui l'a secoué le plus fortement ce virus pour vous?
This is, yes, the crucial question.
Oui, c'est la question primordiale. Je pense que la crise n'est pas simplement une crise de la santé, une crise médicale. Je pense que cette crise parle de la mélancolie. Pas seulement cela, quand vos amis meurent, mais on vit à une époque d'une mélancolie profonde, la mélancolie d'une certaine façon de vivre. Je ne pense pas, lorsque finalement nous allons contrôler le virus, que la vie va revenir à l'ancienne façon, à l'ancienne manière. Non, nous entrons dans une nouvelle ère. Ce n'est pas simplement ce virus, il y a d'autres virus. Il y aura des problèmes politiques. Il y aura des problèmes avec les moissons, il n'y aura pas assez de nourriture. Il y a même des problèmes psychologiques. Je pense que nous sommes poussés aux confins de la folie. Nous sommes dans une situation unique où on devra littéralement inventer une nouvelle façon de vivre. Comment communiquer, comment coopérer, comment faire l'amour même. Avec ceux qui pensent que c'est une crise médicale, peut-être économique, que ce n'est pas le moment de parler politique, mais non, pas du tout. Nous sommes dans un temps éminemment politique. Et nous pouvons déjà voir des options différentes. Des options Donald Trump, Bolsonaro, qui ignorent le coût humain et que le principal pour eux, c'est de sauver l'économie. C'est une économie capitaliste mondialisée. Non. Nous avons des versions technocratiques proposées par Bill Gates et ses semblables pour construire une nouvelle société qui sera, comme ils le sont eux, sans impôts. Que la plupart des choses devraient être faites de façon numérique, par le digital, la santé, la nourriture, même la nourriture doit vous être apportée.
What people forget here is that maximum half the people can live in self-isolation.
C'est que les gens ne peuvent pas vivre dans un isolement sensoriel. Lorsque vous êtes dans un environnement totalement numérisé, vous êtes dans un environnement sans contact sensoriel.
Slavoj Žižek, à vos yeux, vous l'avez évoqué, ce virus et aussi celui de l'idéologie. Vous avez dénoncé dans vos articles, et on le retrouve dans ce recueil Apparaître, dans la tempête virale, ce paradoxe de la mondialisation, selon lequel plus notre monde est connecté, plus un désastre local, ici ce virus né en Chine, dans le Wuhan, peut déclencher une peur mondiale et finalement une catastrophe. Mais c'est aussi, dites-vous, un virus qui a su, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand même enrayer à un moment cette machine capitaliste, en tout cas perturber sa trajectoire. Dans le livre, vous écrivez que des milliers de milliards ont été dépensés pour violer toutes les règles du marché. Ça, c'est inédit. Et c'est en cela que, pour vous, ça rouvre l'horizon des possibles.
Oui, bien qu'à nouveau, je ne suis pas d'un optimisme fou, mais tout est possible. Une nouvelle barbarie est possible. Trump, Bolsonaro, s'il prévalent, qu'est-ce qui va se passer? Les puissances mondiales vont conclure une sorte de cessez-le-feu temporaire. Nous pensons tous que l'épidémie de la Covid, que grâce à cela, vous pouvez avoir plus de violence dans le monde. Au cours des dernières semaines, la Chine a annoncé qu'il était nécessaire d'occuper militairement Taïwan. Il y a des tensions militaires entre la Chine et l'Inde. Poutine a dit que l'Est de la Russie, si la Russie était attaquée, elle pourrait utiliser des armes nucléaires. Trump a annoncé un renouveau des tests nucléaires. C'est toute la folie de notre monde qui était déjà présente, comme le racisme aux États-Unis, ça a explosé dans ces conditions actuelles. Ce qui pour moi est la seule façon logique de s'en sortir, c'est celle-là. Il est clair, lorsqu'il y a des dizaines de millions de chômeurs nouveaux, on ne peut pas les laisser mourir de faim. Il faut faire des choses qui violent les règles fondamentales de l'économie de marché.
Je viens de fortement recommander aux gouverneurs de déployer la garde nationale en nombre suffisant de manière à dominer les rues. Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence massive des forces de l'ordre jusqu'à ce que les violences soient endiguées. Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j'enverrai l'armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux.
Aux États-Unis, Donald Trump qui a donc répondu aux crises qui touchent le pays aujourd'hui de plein fouet, du coronavirus aux violences policières, au racisme, par des excès d'autoritarisme entre menaces et coups de force, parlant jusque dans cet extrait que vous venez d'entendre d'utiliser l'armée contre sa propre population. Vous l'évoquez, Slavoj Žižek, depuis quelques semaines, on voit de nouveaux virus réactivés par la pandémie, les virus des fausses informations, de la censure, du racisme, voire aussi de la bêtise. Est-ce qu'il y a aussi pour tous ces virus-là un vaccin qui est en préparation? Est-ce qu'on cherche le vaccin contre ces virus-là?
C'est une situation politique ouverte. C'est pas simple. Je ne vais pas défendre Trump, mais montrer une certaine compréhension pour les gens, même des gens de la gauche radicale, des penseurs de la gauche radicale, qui ont rejeté le confinement, qui étaient en faveur des contacts humains. Moi, je les comprends. J'écoute les Américains qui disent « Je ne veux pas porter de masque, ça me fait ressembler à un singe, à un imbécile, c'est contre ma dignité, ça va à l'encontre de ma dignité humaine. » Donc, à nouveau, la crise est profonde. Ce racisme aux États-Unis, il est clair que c'est du racisme structurel. C'est inscrit dans la structure de l'économie américaine. Donc, la réponse classique multiculturelle, libérale, qu'il faut abandonner nos biais culturels, il faut tolérer les autres, il faut les accepter. Ce n'est pas suffisant ici. Pour utiliser un terme freudien, la violence que l'on voit dans les rues américaines, c'est bien sûr c'est de la violence réelle des manifestants. On ne peut pas l'accepter. Mais au sens freudien, c'est le retour du refoulé. Parce que ce que les gens ne se rendent pas suffisamment compte, ce n'est pas simplement une guerre culturelle entre les néo-conservateurs populistes et cette gauche multiculturelle libérale. Ce que l'on entend dans les manifestations, c'est la colère qui est tournée contre ces deux options. Un commentateur américain a dit quelque chose d'excessivement radical, et je suis d'accord. Il a dit « notre véritable ennemi ». Ce n'est pas le Ku Klux Klan, ce n'est pas le racisme évident du Ku Klux Klan. Mais un blanc libéral qui prêche la tolérance, mais qui dans la vie réelle pratique tous ces petits biais racistes et en fait participe dans une économie qui reproduit ce racisme.
Slavoj Žižek, pour le coup, ce n'est pas d'interdit, ni même d'autorité, comme il vous arrive de le déplorer, dont nous avons manqué tous ces dernières semaines, mais plutôt de liberté. Est-ce que ça crée une inquiétude chez vous d'un précédent qui pourrait se confirmer dans le temps? L'essayiste canadienne Naomi Klein parle aujourd'hui aussi d'un risque du Screen New Deal, c'est un pacte des écrans avec cette entrée quand même du virtuel, du numérique partout dans nos vies. Est-ce que vous en êtes inquiet?
Je suis d'accord ici avec Naomi Klein parce que nous avons maintenant deux options principales. La première, c'est la suivante. Bolsonaro-Trump, même s'il y a plus de gens qui meurent, c'est d'abord l'économie. Et l'autre option, c'est ce que Naomi Klein appelle le nouveau deal des écrans qui serait totalement en contrôle de nos vies. Ce n'est pas exactement le modèle chinois. En Chine, c'est l'État qui contrôle tout. Dans ce nouveau deal des écrans, nous aurions encore le contrôle de nos libertés. Vous faites ce que vous voulez, mais tout doit être contrôlé numériquement, enregistré. Et ça, c'est pire que le modèle chinois. Parce qu'en Chine, au moins, vous savez que vous êtes contrôlé par l'État. Mais je pense que la forme la plus dangereuse de la non-liberté, c'est la non-liberté dont vous n'êtes même pas conscient et que vous pensez être libre, en fait.
Et vous l'écrivez dans Pandémique, cet ouvrage bientôt traduit en France chez Actes Sud, qui s'appellera Dans la tempête virale. Nous sommes tous désormais comme Julian Assange, et plus que jamais, nous avons besoin de figures comme lui pour éviter de dangereux abus de pouvoir justifiés par la menace sanitaire, voire médicale. Un autre essai écrit sur le vif de la crise qui vient de paraître chez Grasset, c'est celui de Bernard-Henri Lévy, ce virus qui rend fou, sorti mondial de cet ouvrage. Écoutez ce qu'il disait chez nos confrères de France Inter sur la question de notre réaction pendant le confinement.
Bien sûr qu'il fallait les gestes barrières et il fallait cesser de se serrer la main et ainsi de suite. Le vrai problème, c'est que les gens se soient confie dans ce confinement. Vous voyez, bon, moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est pas tellement qu'on respecte les règles, mais c'est cette incroyable docilité. C'est cette façon dont on a accepté l'idée que ce fameux silence des organes, hein, qui est la définition de la santé selon Valérie et d'autres, ça soit comme une espèce de silence de couvre-feu et de mirador. Il y a eu quelque chose là qui m'a semblé extrêmement malsain.
Voilà, Bernard-Henri Lévy à la matinale de France Inter, à l'occasion de la sortie de ce livre, ce virus qui rend fou. Est-ce que vous nous avez trouvé, vous, Slavoj Žižek, discipliné et même peut-être été surpris que des peuples comme les Français, qu'on dit souvent indisciplinés, aient su se ranger, faire groupe pour lutter contre la menace, ou les Italiens? Ou est-ce que vous nous avez trouvé moutonniers durant cette période?
La façon dont je vois la situation est un peu plus compliquée. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, je ne partage pas cette paranoïa qui permettrait à nos dirigeants de nous suivre par téléphone, par smartphone, de suivre tous nos mouvements pour qu'ils soient enregistrés quelque part. C'est une menace totalitaire. Non, ça se passe déjà. Je connais la situation aux États-Unis, en Israël, et probablement dans d'autres pays, où toutes nos conversations téléphoniques, toutes nos conversations numériques, sont déjà contrôlées, enregistrées par des agences étatiques, par d'autres agences de ce genre. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que, en fait, nous sommes déjà contrôlés. Deuxièmement, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. C'est pas que nous sommes totalement contrôlés par l'État. Nous sentons quelque chose, en tout cas, qui, moi, me panique un peu. Est-ce qu'il n'est pas clair de ce qui se produit actuellement que l'État, avec tous ses pouvoirs, ne peut pas véritablement contrôler le virus? On ne peut même pas faire confiance à la science. Oui, bon, mais même les scientifiques ne sont pas unis. Il n'y a pas une opinion. Donc je pense que, pour moi et la plupart de mes amis, ce qui est véritablement ce qui nous menace, pour moi en tout cas, j'aimerais bien avoir un État où on dit, d'accord, c'est une menace médicale, je fais confiance à l'État, que l'État nous contrôle. Et de cette manière, l'État réussira à nous en débarrasser. Mais même les autorités étatiques ne savent pas ce qui se passe. Nous avons tout le temps, incessamment, des messages contradictoires. Dans mon propre pays, la Slovénie, tout d'abord c'était « isolez-vous, restez chez vous, vous ne serez pas contaminés ». On a réussi. Et maintenant, on a un autre message. Ah, vous savez quoi? Peut-être qu'on n'a pas bien fait. Il y a trop de gens qui étaient isolés. Les gens n'étaient pas assez vulnérables. Et peut-être qu'on est devenu encore plus vulnérable de cette manière. Donc, moi, je pense que ce que l'on voit maintenant, du point de vue de la liberté, c'est un espoir, en fait. C'est un moment où l'impuissance, le manque de connaissance des pouvoirs est publiquement dévoilé. Regardez Donald Trump. Certains commentateurs ont noté Il parle comme un fou, littéralement. Il improvise avec des plaisanteries. Saute d'un sujet à l'autre. Robert Reich, un commentateur, a dit quelque chose qui, à mon avis, est vrai. Elle dit que Trump a abdiqué en tant que président. À un moment tel que celui-ci, aux États-Unis, on s'attendrait qu'un président assène la dure vérité, mais vous donne en même temps un espoir, une autorité solide. Mais Trump ne le fait pas. Trump devient simplement sans importance.
Donc,
au lieu d'avoir peur de trop de pouvoir totalitaire, ce qui se produit actuellement, c'est le moment de l'impuissance du pouvoir. Nous voyons la vanité de ces pouvoirs étatiques.
Avec nous jusqu'à 13h30, le grand philosophe slovène Slavoj Žižek, à l'occasion de la parution très prochaine en France de son ouvrage Pandémique, traduit sous le titre Dans la tempête virale, ce sera chez Actes Sud. Et on a envie de comprendre effectivement avec vous aujourd'hui, Slavoj Žižek, si ce calme avant la tempête dont on doit normalement se méfier, est-ce qu'il faut aussi s'en méfier de ce calme après celui qui succède à la tempête dans cette période où nous sommes ce aujourd'hui, ce maintenant, et quel après peut se profiler, et ce qu'il ressemblera furieusement à l'avant, on en parle avec vous. France Culture, il est 13h18.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on earth. I've been hiding in this empty house near Grover's Mill, a small island of daylight cut off by the black smoke from the rest of the world. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life. A life that has no continuity with the present. Furtive existence of the lonely derelict who pencils these words on the back of some astronomical notes bearing the signature of Richard Pearson. I look down at my blackened hand and I try to connect them with a professor who lives at Princeton and who on the night of October 20th.
Le monologue du professeur Pearson dans La guerre des mondes, Slavoj Žižek. La réalité a-t-elle quand même pour vous aujourd'hui dépassé la fiction? Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui vous fait penser à des films, à des livres que vous avez vus ou lus? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une réalité qui est surfictionnelle?
Oui, mais vous savez ce qui est tellement frustrant? C'est que matériellement, il n'y a pas de monstres. On ne voit pas les aliens. C'est frustrant. Vous sortez, vous faites une petite promenade, si vous pouvez. Les mêmes bâtiments, les mêmes boutiques. La réalité est là, dehors, telle qu'on l'a connue. Mais on ne peut pas interagir avec cette réalité. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas ce que j'entends. Quand Macron dit « on est en guerre », mais en guerre, il y a un ennemi qui complote contre vous, qui vous tue. Mais si vous regardez de près le virus est un mécanisme d'autoréplication complètement idiote. Et il n'a même pas de vie, en fait. Ce qui est tellement choquant, c'est que nous, l'humanité, nous ne sommes pas menacés par un alien super intelligent qui tente de nous prendre à revers. Non, nous sommes menacés par la forme la plus primitive de parasitisme que nous puissions imaginer. C'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup d'amis ne sont pas d'accord avec moi, qu'on devrait éviter la menace spirituelle de rechercher un sens à tout cela. Est-ce que c'est un truc de la nature que nous avons trop exploité? Non, non, ça n'a pas de sens. C'est l'imbécilité d'un processus chimique dans son aspect le plus élémentaire. C'est une pensée qui nous rassure un petit peu. La nature est stupide. Non pas. C'est stupide dans le sens qu'elle fonctionne. Elle ne joue pas à un jeu. Elle n'essaye pas de nous truquer la vie. Non, non. Mais c'est ça. Ça nous rend la vie difficile à nous.
Aujourd'hui, à vous lire, Slavoj Žižek, nous sommes dans ce que le journaliste américain Sébastien Junger appelle le parfait orage. On est en pleine tempête et plusieurs orages s'amoncellent, se rencontrent dans les ciels d'Europe qui peuvent laisser espérer un changement. Pour vous, l'événement que nous vivons aujourd'hui est suffisamment radical pour provoquer une rupture, un vrai changement de rythme et d'époque?
Oui, je suis d'accord avec l'utilisation de Sébastien Junger de son titre « Une tempête parfaite ». Pourquoi ? Parce que la crise est médicale, probablement économique, agricole. Vous savez ce que je trouve tellement horrible, et on ne lit pas suffisamment de choses là-dessus, l'Inde et l'Afrique de l'Est, il y a une invasion terrible de criquets là-bas. Prenez par exemple, vous savez, cette grippe porcine. Cette grippe porcine a tué des dizaines de millions de porcs. Elle est en plus très très forte actuellement, cette crise. Il faut se préparer à une possible disette et qui entraînera de nouvelles guerres. Ne sous-estimez pas les crises psychologiques. J'ai lu quelques rapports médicaux de l'Italie du Nord que 60% des adultes ont déjà des problèmes mentaux. Ils sont déjà sous médication. J'ai vu que dans la principale ville, qui sont contrôlées par des drones en Espagne, Madrid, etc., les enfants font des cauchemars. C'est donc vraiment une tempête multiforme. Et nous ne savons pas ce qui va se produire. Une nouvelle option, c'est une nouvelle barbarie. Et l'autre, c'est une dictature des écrans. Et la seule option que je vois, c'est bien sûr, c'est pas le comité central communiste, non, pas du tout. Il ne s'agit pas de devenir chinois ou de faire comme les Chinois, mais il faut clairement se mesurer médicalement au virus, organiser les approvisionnements en nourriture. Nous avons besoin de décisions collectives qui ne soient pas contrôlées par le marché. Même Trump, en distribuant des centaines de dollars à des familles pauvres, a été concrètement forcé, contraint à introduire un revenu minimum. C'est une situation unique où même les politiciens conservateurs sont en train d'introduire des mesures qui, il y a 2 ou 3 ans, si on voulait les proposer, leur réponse aurait été « Mais êtes-vous dingue ?» Donc, le communisme dont je parle, c'est au moins une réorientation partielle du marché vers ce que Marx disait à tous, de tous selon ses besoins et de chacun selon ses moyens. Mais je ne dis pas de la façon dont Marx le disait au sujet de la société, mais de la façon beaucoup plus concrète. C'est vraiment le rôle de l'État et des communautés de garantir que tout le monde sera capable de survivre de façon modeste, Mais je pense également que dans une situation d'urgence, il s'agit de mobiliser les gens qui sont pour l'instant au chômage. J'ai lu par exemple qu'en France, vous avez un problème avec les moissons, parce que d'ordinaire, les gens d'Afrique et d'Espagne venaient vous aider aux moissons. Ben voilà, maintenant, les fruits, les légumes sont en train de pourrir dans les champs, dans les prés. Ça, c'est dû parce qu'il y a un manque de mobilisation générale. Il faut être prêt à faire des choses de cet ordre-là.
Slavoj Žižek, terminer avec vous sur les mots qui ont ouvert ou qui ouvrent votre livre « Apparaître en France », ce titre introductif de votre recueil de chroniques au temps du corona, « Noli me tangere », « Ne me touche pas, ne me retiens pas », c'est ce que dit Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. La distanciation sociale, c'est notre nouveau paradigme à tous et il va falloir recréer du commun avec cela. Je pense, en vous disant cela, au mot du philosophe Jean-Luc Nancy, l'interdiction de toucher qui peut-être va réactiver notre désir de toucher, mais va-t-on devoir maintenant établir ce contact avec la vue, nous toucher avec les yeux? Qu'en pensez-vous? Et on terminera là-dessus. Peut-être en français, si vous le voulez bien, Slavoj Žižek.
Sorry, it's my turn. Okay. I will say that I deeply agree.
Je suis tout à fait d'accord.
But I think that it's a beautiful paradox that we are.
C'est un merveilleux paradoxe.
Our sexuality,
notre sexualité sans amour.
Sorry, it's my turn.
Oui, c'est toujours à vous, on vous écoute.
Okay,
on en était à la sexualité sans amour rapidement.
The paradox is this one, that our sexuality,
notre sexualité.
Was becoming already in the last two decades,
devenait au cours des
deux
dernières décennies
more and more digital,
de plus en plus numérique.
My son has friends who told me,
mon ami, mon fils,
to seduce a woman or a man, you must
des copains,
in front of the screen. I don't get the energy for that.
Pour séduire une femme ou un homme, il faut se mettre
today,
à poil devant un écran.
Sexuality,
moi, je pense que cette sexualité, c'est-à-dire ce désir sans amour, deviendra de plus en plus virtuel, sans corps, alors que paradoxalement, notre amour véritable va redécouvrir le corps. Un de mes réalisateurs, André Tarkovsky, a décrit un poème de son père qui dit que l'âme sans corps est nue et obscène, tout comme un corps sans vêtements est obscène.
Merci beaucoup, Slavoj Žižek. Ça veut dire que dans la distanciation, on va peut-être réapprendre aussi à se regarder et à se toucher. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Anna Holweck à la réalisation. Merci beaucoup à Nasser Moussaoui à la technique. Et à vous, cher Michel Sotowski, pour cette traduction pas évidente. Par téléphone avec notre invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Apparaître chez Actes Sud dans la tempête virale. Énorme merci, Slavoj Žižek.